Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Aujourd'hui, notre émission hebdomadaire d'information est consacrée à la question du logement, qui est souvent abordé de manière périphérique, notamment dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles. On parle beaucoup du pouvoir d'achat, on parle moins du poids du coût du logement sur les ménages en France. Et on profite aussi bien de la publication du 27e rapport de la Fondation de l'Abbé Pierre pour évoquer aussi les questions du mal logement, mais en abordant aussi d'une manière plus générale la question du logement abordable. Beaucoup de Français aujourd'hui souffrent, soit parce qu'ils sont mal logés, 4 millions de personnes très mal logées, près de 12 millions de personnes en situation de fragilité, de suroccupation de logement, de précarité énergétique et autres difficultés, et puis des millions de Français qui souhaiteraient accéder à la propriété, ne le peuvent pas, souhaiteraient accéder à un logement social, ne le peuvent pas. Et donc, pour aborder tous ces sujets-là, j'ai le plaisir d'accueillir Razi Hamadi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur associé de New Sanctity, qui est un média global dédié à la fabrication de la ville, et vous êtes également directeur du MBA Management des Transitions Urbaines à l'Université Léonard de Vinci. Et ma première question, ça sera de vous dire que vous n'êtes pas étonné face au constat réitéré chaque année des difficultés que les Français ont à se loger, du peu d'écho et du peu de propositions alors qu'on est à quelques semaines d'une élection présidentielle.
Eh bien, Alexis Bachelet, tout d'abord, je vous remercie ainsi que Radio Orient pour cette invitation pour parler de ce sujet ô combien crucial pour le quotidien de nos concitoyennes et concitoyens et pour lequel, en effet, on peut se désespérer de ne pas le voir tenir la dragée haute à d'autres sujets qui peuvent apparaître périphériques au quotidien de nos concitoyennes et concitoyens dans le cadre de cette campagne présidentielle. Les rapports se suivent et se ressemblent. Dernier en date, hier, avec la Fondation AP Pierre qui a rendu public ses chiffres, comme vous le disiez très justement. Il n'y a aucune raison pour que la situation s'améliore parce que nous avons produit moins de logements que ce qu'il fallait produire. L'année dernière, il semble que nous ayons une petite reprise cette année, mais on est resté en dessous des 450-500 000 nécessaires par an, dont 150 000 logements sociaux dont nous avons besoin. Et cela est d'autant plus flagrant que cette baisse de la production est beaucoup localisée dans les zones métropolitaines. Ça pour la production, ça pour les demandeurs qui restent au même nombre, sinon plus nombreux. Donc vous avez plus de demandes, une demande toujours aussi pressante et une insuffisante production ou des prix trop chers, puisque je rappelle, et c'est le deuxième aspect aussi de ce rapport de la Fondation Abbé Pierre, c'est que nous avons tout de même 3,1 million de logements vacants selon l'INSEE. Donc il y a aussi une vacance, puisque pour plusieurs raisons, rénovation, réhabilitation, propriétaire, sécurisation, niveau de prix. Donc on a à la fois trop peu de logements, des logements trop chers et des logements qui ne sont pas forcément suffisamment produits au bon endroit. Et on va sûrement dans la suite de votre émission revenir sur la notion et cet enjeu du pouvoir d'achat.
Alors il y a la question du pouvoir d'achat qui pèse aujourd'hui fortement dans le débat public, mais c'est vrai qu'on aborde souvent la question de l'augmentation des salaires comme étant la réponse, je dirais, la plus simple. Mais on parle plus difficilement ou plus rarement de la manière dont on limite le poids de certaines dépenses sur le budget des ménages, et en particulier la dépense logement, qui non seulement a tendance à s'accroître. Il y avait un chiffre qui était assez effarant, c'est que en France, le taux de propriétaires stagne, et sur la tranche des 30-65 ans, il a même régressé ces 15 dernières années. Autrement dit, aujourd'hui, les seuls qui ont les moyens d'accéder à la propriété le plus facilement, c'est les plus de 65 ans. Et les jeunes ménages, eux, eh bien aujourd'hui, ils sont de moins en moins en capacité de devenir propriétaire, donc aussi de faire des projets de vie, de fonder des familles. C'est quand même un chiffre qui est assez frappant.
Écoutez, Alexis Bachelet, vous allez peut-être voir dans mon propos une forme de provocation pour ceux qui connaissent mon parcours engagé plutôt du côté des forces de progrès dans cette dimension publique. Je suis plutôt retiré de ces choses-là, mais je vais vous dire deux choses qui vont peut-être aussi choquer nos auditeurs. Moi, je suis contre, par exemple, cette hypocrisie manifeste que personne ne reconnaît parce que personne ne la voit, notamment sur la capacité d'endettement des ménages. Il serait bon, il serait juste de défendre les ménages contre la capacité d'endettement. Mais de quelle capacité d'endettement on parle ? Lorsqu'aujourd'hui vous avez les préconisations de la Banque de France qui disent « Ouh là là, c'est scandaleux, vous avez des ménages qui sont endettés à plus de 25% sur 25 ans pour acheter leur logement. » Ça choque tout le monde. Ça ne choque personne que des gens aujourd'hui dans les grandes métropoles payent plus de 40-50% de leurs revenus pour un loyer qui fait que d'ailleurs le logement ne leur appartiendra jamais. Je rappelle d'ailleurs que lorsque vous êtes malade et que vous avez un crédit, le crédit est suspendu, vous avez une assurance. Lorsque vous êtes malade ou vous perdez votre emploi, si votre loyer vous le payez pas, il y a l'huissier qui vient taper à la porte. Premier point. Deuxième point, on a une autre hypocrisie qui fait que ce n'est pas tant le pouvoir d'achat qu'il faut surélever. C'est le prix du logement qu'il faut maîtriser. Or, le prix du logement, il a, et ça c'est une deuxième hypocrisie, un certain nombre de déterminants. On pourrait parler des normes, on pourrait parler de la complexité, on pourrait parler de la durée de production, puisqu'on construit en France 30% plus lentement qu'en Allemagne pour 30% plus cher. Or, oui. Il se trouve que un des déterminants des prix du logement, c'est le foncier. Qui, aujourd'hui, met aux enchères le foncier ? Ce sont les collectivités. Les collectivités, lorsqu'elles lancent un projet, elles disent ben, « celui qui m'en donne le plus, c'est celui qui gagne ». Alors oui, il y a la forme architecturale, oui, il y a la programmation, combien de logements sociaux, tout ça, et oui, des choses à respecter.
Ce qu'on appelle l'inflation des fonciers.
L'inflation des fonciers. Donc vous avez Grand Paris Aménagement, pour ce qui est de Paris, qui face à cette hypocrisie, enfin a pris une décision et annonce prochainement la fin des enchères sur le foncier, mais parce que vous avez... Alors, vous allez me dire, mais c'est pas l'intérêt, et vos auditeurs peuvent dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Quel est l'intérêt des collectivités à en renchérir le foncier ? Je vais vous donner un chiffre, c'est que, cette année, l'État et les collectivités a prélevé 79 milliards sur le logement, contre 56 milliards il y a 10 ans. Et ça, c'est grâce au logement CER. C'est la taxe foncière, c'est la TVA, c'est les droits de mutation, ce sont les recettes fiscales. Donc aujourd'hui, on dit, on dépense 40 milliards. D'ailleurs, il faut aussi rappeler ce qu'est la réalité de ce chiffre. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on dépensait 44 et quelques 45 milliards. Aujourd'hui, on en dépense 37 ou 38. Donc, on est passé de 1,7% du PIB à 1,2%. Donc, on dépensait il y a 10 ans 56 milliards pour le logement et aujourd'hui un peu en dessous des 40. Bon, donc, où on choisit d'avoir des priorités, où ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, il y a les modalités. Il y a les modalités. Aujourd'hui, on voit qu'on est au bout d'un système, que ça n'est pas possible de continuer ainsi, notamment dans un contexte où on met en place les zones d'artificialisation nette qui renchérissent de fait par raréfaction, sans remettre en cause cette mesure écologique et nécessaire, le prix du foncier. On a des enjeux de gouvernance, c'est-à-dire qu'on peut pas aujourd'hui avoir 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour produire un logement. Donc il y a un certain nombre de mesures simples qu'on pourrait mettre en place.
Alors là, par exemple, comment on pourrait raccourcir les délais et fluidifier un petit peu la production.
Eh bien, je vais vous donner deux mesures concrètes que je travaille dans un ouvrage qui sera publié avant l'été, après l'élection présidentielle, puisque on regarde malheureusement la place prise du logement dans cette campagne et celle de la ville. Je me suis dit, bah, écoutez, vaut mieux qu'on en débatte une fois que l'élection sera passée, puisque j'ai l'impression qu'on n'en débat pas beaucoup en ce moment, tristement, heureusement qu'on le fait sur votre radio notamment. Mais, par exemple, sur le permis de construire. Sur le permis de construire, vous avez tout un tas de projets qui sont bloqués au niveau local parce que, au dernier moment, le maire ou les élus ou une mobilisation citoyenne, ce qui est à juste titre. Mais il y a déjà une démocratie qui a construit un PLU. Il y a une règle, un plan local d'urbanisme. Donc si quelqu'un dépose un permis de construire qui respecte le PLU, il doit pouvoir construire. Et si on lui dit non, vous construisez pas, moi je suis pour qu'il y ait un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que lui, il lance ses travaux, il fait comme si de rien n'était, et c'est à la collectivité de démontrer, ou au requérant de démontrer que le PC ne respecte pas le PLU. Et je pense que là, on réduirait de plusieurs mois, voire plusieurs années, un certain nombre de projets. Deuxième proposition très concrète, Moi, je serais pour aussi, dans cet objectif et cette ambition de justice, c'est une mesure à laquelle je travaille depuis quelques semaines, hein, c'est tout nouveau. C'est une forme aussi, vous parliez de ces ménages qui ne peuvent accéder à la propriété, une forme d'impôt négatif. On est tous concentrés actuellement sur la question de l'héritage, en disant faut arrêter de taxer les transmissions, l'héritage, etc. Et ceux qui n'héritent de rien. Ceux qui n'héritent de rien et qui n'ont pas de capital ou de patrimoine pour pouvoir accéder. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Eh bien, moi, je suis pour qu'on crée un niveau de montant épargné qui soit franc d'impôt et qui permette de finalement bénéficier de ce dont bénéficient d'autres lorsqu'ils bénéficient d'exonération fiscale ou de d'absence d'impôt dans le cadre des transmissions pour qu'eux aussi puissent devenir propriétaires. Et enfin, je pense que ce qui est nécessaire d'avoir aujourd'hui, c'est d'avoir tout le monde autour de la table et d'avoir une contractualisation opposable sur le nombre de constructions de logements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a trop dissocié dans ce pays l'aménagement et la production de la ville, les infrastructures et l'aménagement et le logement. Regardez, je vous donne un exemple, Alexis Bachelet. Nous allons construire 68 gares. 68 gares dans le cadre du Grand Paris, on parle ici de la métropole du Grand Paris, on pourrait parler d'autres endroits. Y a-t-il un objectif opposable, unifié, quantitatif et qualitatif sur le nombre de logements que ces 68 gares doivent produire? Non. Non. Nous avons des aménagements gare par gare qui ne prennent pas en compte ce qui est fait dans la gare d'à côté, ni sur les besoins de l'aire métropolitaine. On ne peut plus continuer comme ça. Ça n'est plus possible, c'est catastrophique lorsqu'on voit la crise du logement, le mal-logement, et puis il y a évidemment d'autres sujets, la question de la rénovation, de la réhabilitation, vous avez beaucoup de propriétaires qui n'ont pas les moyens, qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas louer leur logement parce qu'ils ne respectent pas les étiquettes, même si on a vu les problèmes techniques, vous savez, sur l'efficacité énergétique. Là, je pense qu'il faut aussi, par exemple, avoir des mesures fortes, et notamment arrêter l'intermédiation. Aujourd'hui, vous payez des gens qui sont derrière un ordinateur près de leur téléphone pour qu'ils vous envoient vers quelqu'un qui est certifié rénovation énergétique RGE pour qu'il vienne faire les travaux chez vous et qui va prendre une toute petite part de la marge en renchérissant le prix des travaux. Je pense que nous avons besoin là d'agences opérationnelles à l'échelle des départements, des régions, où on dit, voilà, cette agence, elle est éphémère, il y en a pour 5, 6, 7 ans, il faut mettre à niveau le parc de logements privés, on va mettre de l'argent, on n'a pas besoin de passer par tous ces intermédiaires, on n'a pas besoin de passer par toute cette complexité, on a une programmation, l'agence elle n'a pas vocation à vivre 15, 20, 30 ans, on met le paquet pendant 5, 10 ans, on remet des biens sur le service, on a un système de tiers financeurs, les bailleurs sociaux d'ailleurs se sont portés candidats pour le faire dans la loi 3DS, malheureusement ça n'a pas été retenu. Aujourd'hui, il y a des mesures, il faut juste arrêter une chose. Et là, je reprends un petit peu ma casquette politique que j'ai abandonnée. Mais il faut juste que chacun prenne ses responsabilités et qu'on arrête la dilution de la responsabilité. Je déjeunais aujourd'hui avec un maire de la communauté de Clermont-Ferrand qui disait aujourd'hui, lorsqu'on fait un PLU, les injonctions contradictoires sont immenses. Nous allons avoir la direction régionale de l'environnement qui va nous dire non, là, il faut que ça soit une zone naturelle. Nous allons avoir le ministère du logement qui va nous dire là, il faut produire tant de logements, mais il faut tant de logements sociaux. On va avoir telle demande de telle autre directive qui ne sera pas compatible avec les deux premières. Donc, on a aujourd'hui un fonctionnement en silo, et nous avons un fonctionnement qui fait que nous avons des injonctions contradictoires qui, les unes mises au bout des autres, à la suite des autres, eh bien, mènent à la situation aussi dans laquelle on est, parce qu'aujourd'hui on a les compétences, il y a de l'argent, c'est rentable, mais on est bloqué.
Alors, dans les sujets qu'on souhaitait aborder, même si le temps passe vite et qu'il y a énormément de choses à dire, il y a la question du logement abordable et notamment du logement social. Quel bilan vous tirez-vous de la loi SRU qui, même si elle a permis dans un certain nombre de territoires de développer une offre de logement social, reste encore contestée dans les territoires, mais aussi par certains parlementaires qui parlent toujours d'assouplir la loi SRU, alors même que, bien, vous l'avez rappelé, on a toujours un manque criant de logement social à l'échelle du territoire national.
Mais écoutez, la loi SRU, elle arrivait cette année ou l'année prochaine à la fin de son existence, puisque elle avait un objectif limité en termes de durée de vie. Et donc, il a fallu la prolonger. C'est ce qui a été fait dans un accord qui a été plutôt transpartisan, on va dire, notamment avec un travail qui a été porté par Dominique Estrosi Sassone, Marie-Noëlle Lindemann, notamment au Sénat et d'autres. Aujourd'hui, finalement, on a un dispositif qui dit... On va plus être sur la nécessité couperée de la production des 20%, mais l'objectif est d'être sur le tendanciel, sur un triennal, avec des accords qui sont signés. Bon, pourquoi pas, on met un peu plus de souplesse, on permet à la loi SRU de continuer. Ensuite, les décisions, il faut qu'elles soient appliquées. Et autant je crois au fait que le couple maire-préfet est un couple vertueux, autant dans la vraie vie, on sait que le préfet ne veut pas non plus avoir trop de difficultés avec le maire. Donc, souvent, on a le non-respect de la loi SRU, qu'elle soit assouplie ou pas, ancienne version ou nouvelle version, ça fera la même chose, et avec, finalement, des collectivités carencées sur lesquelles on n'a pas les sanctions qui tombent. Donc, moi, la loi SRU a été une bonne chose. Maintenant, on voit très bien qu'on a vocation à avoir véritablement des contrats d'objectifs qui soient à l'échelle des urbaines, parce que tout ce qu'on dit depuis le début sur le logement, je vais encore peut-être en faire réagir plus d'un chez vos auditeurs, mais il n'y a pas de crise du logement en France. Il y a une crise du logement dans les zones métropolitaines en France.
Oui, ce qu'on appelle les zones tendues.
Voilà. Aujourd'hui, il y a des endroits où le social est plus cher que le privé. Hein. Vous avez des endroits où vous avez des taux de vacances à 15%, c'est-à-dire vous avez 1,5 logements sur 10 qui est vide. Donc, on a un sujet évident et clair ici, qui est la nécessité d'avoir une task force territorialisée en fonction de tout ce que je viens de dire, en disant on sort de la crise du logement sur ces territoires-là, et c'est une chose qui est possible. Elle est possible parce que d'autres pays ont démontré que cela était possible. Le Québec l'a démontré notamment. Donc sortir de la crise du logement, c'est possible, mais ça impose aussi d'avoir des gouvernances et des stratégies qui soient au plus près de chaque territoire. Si vous me dites combattre la crise du logement à Paris, vous dites ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, sauf à faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire acheter de 10 000 euros le mètre carré pour pouvoir dire à Paris, on fait du logement social. Ça n'a aucun sens lorsqu'on sait qu'à 15 minutes de Paris, avec ces 10 000 euros, on peut produire 3, 4, 5 mètres carrés de logement social. Donc la seule solution pour que Paris, et c'est un sujet que vous connaissez bien, Alexis Blachelet, sans trahir ce qu'est la neutralité de votre rôle d'animateur ici, sur Radio Orient, c'est qu'il n'y aura pas de solution de la crise du logement à Paris sans le Grand Paris. Maintenant, si par exemple on aborde la question à Marseille, ça, on sera évidemment sur une question de gouvernance, parce qu'il faut savoir qu'à Marseille, jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, il n'y avait aucun représentant de la ville Marseille au sein de l'office métropolitain de l'habitat, pour des raisons politiciennes scandaleuses. Pour autant, à Marseille, ça, on va plus passer par la lutte contre l'insalubrité. Or, aujourd'hui, le bras armé de la lutte contre l'insalubrité à Marseille, dirigé par la SPLAIN, qui est une société publique locale d'aménagement, c'est 12 millions, 14 millions d'euros, c'est pas assez. On va avoir sur d'autres territoires une autre manière d'aborder le marché, notamment sur le bassin ouest. Tout ce qui est du côté, par exemple, du Pays Basque, on voit une explosion de la maison secondaire. Sur chaque territoire, vous allez avoir des politiques qui sont différentes, qui sont nouvelles. Et puis, recréons des villes. Là où nous avons des infrastructures de transport, c'est un débat que je porte depuis maintenant 2 ans avec des professionnels, avec des groupes de travail. Et vous avez, c'est le hasard qui fait bien les choses, aujourd'hui, si vous achetez dans les archives d'il y a 2 jours un grand quotidien national de l'ouest de la France, son numéro était dédié au bon plan du fait d'habiter autour des gares. Vous avez par exemple une gare d'Ordive qui est à 45 minutes de train de Paris. Je pense qu'on peut construire beaucoup de logements là-bas. Mmh. Et on est à 45 minutes de Paris.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur associé et fondateur de New Tank City, qui était un média global dédié à la ville, et également directeur du MBA Management des Transitions Urbaines à l'Université Léonard de Vinci. À très bientôt.
Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Une émission que nous avons consacrée aujourd'hui à la question du logement et en particulier sous l'angle bien du poids de la dépense pour un nombre important de ménages. On parle souvent de la question du pouvoir d'achat, de l'augmentation des salaires, mais assez peu de la manière de limiter le poids de la dépense de logement sur les ménages en France. Et on profite aussi de la publication du 27e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement pour aborder cette thématique. Et mon deuxième invité aujourd'hui, c'est Daniel Goldberg. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable associatif, mais surtout nouvellement désigné porte-parole de Christiane Taubira et responsable de la mobilisation citoyenne, et également ancien parlementaire. Et c'est aussi à ce titre-là qu'on a souhaité vous interroger sur cette situation un peu, je dirais, persistante d'une crise du logement qui, pour autant, est assez peu présente dans le débat politique actuellement. Comment est-ce que vous expliquez cette différence entre ce que les Français vivent et bien la manière dont les responsables politiques abordent ce thème du logement?
Malheureusement, c'est pas une nouveauté. Le logement est toujours le grand absent des campagnes électorales. Je le regrette. Moi, ça fait des années que je suis mobilisé sur ce sujet-là. Vous l'avez dit, lorsque j'étais parlementaire, j'étais rapporteur du budget du logement pendant 5 ans, rapporteur d'une des lois du quinquennat précédent, la loi Allure. Et malheureusement, à chaque élection présidentielle, le sujet du logement disparaît, en tout cas n'apparaît pas à la hauteur, et vous l'avez bien dit, de ce qui est une des premières préoccupations des Français aujourd'hui, puisque se loger, non seulement bien sûr pour celles et ceux qui sont les plus modestes de ce pays, mais pour quantité de familles des classes moyennes, c'est devenu une vraie difficulté aujourd'hui, une vraie contrainte. C'est une source d'inégalité entre les générations, parce que bien sûr, ceux qui avaient 20 ou 30 ans il y a 30 ou 40 ans avaient beaucoup plus de possibilités de se loger et de se loger pour un prix moins important que c'est le cas aujourd'hui. Et puis, c'est une source d'inégalité entre les générations, puisque suivant que l'on est, on soit issu d'une famille où il y a un patrimoine acquis, et notamment par l'héritage, eh bien on a soi-même beaucoup moins de possibilités de se loger, parce qu'aujourd'hui on vit beaucoup dans notre pays sur une société d'héritiers. Et celles et ceux qui peuvent acheter aujourd'hui sans s'endetter pour 30 ans et sans mettre une partie très très importante de leur revenu mensuel dans le logement, ben c'est des gens qui ont la chance, et on ne peut pas l'en vouloir de ce point de vue-là, d'avoir des ressources qui proviennent d'un patrimoine familial ancien et qui a grandi ces dernières années. Aujourd'hui, on considère qu'il y a environ entre 35% et 50, voire 55% des revenus mensuels pour toutes les familles de France qui partent dans une dépense de logement. Et le pire étant que ce pourcentage est le plus élevé, plus de 50%, voire 55%, pour les familles les plus modestes. Donc c'est vraiment un problème à la fois pour les personnes mal logées, et être mal logé, c'est pas seulement être à la rue, c'est d'être logé, par exemple, dans des pièces avec un nombre de pièces qui ne correspondent pas à la composition familiale. C'est aussi au moment de la pandémie et des confinements et du recours au télétravail, ne pas avoir de possibilité pour travailler de chez soi, par exemple. C'est aussi lié à l'évolution des modes de vie avec les familles décomposées et puis des familles recomposées, et donc un besoin de pièces supplémentaires pour accueillir les enfants d'une première union, par exemple. Et puis, c'est aussi un nombre de mètres carrés nécessaires par personne plus important aujourd'hui qu'hier, par les phénomènes sociologiques dont je viens de parler, et puis aussi, heureusement, parce que la population vieillit, et donc le besoin en logement grandit dans la population. Et par rapport à ça, excusez-moi, je fais une réponse très longue, peut-être, par rapport à ça, on a une production de logements qui ne correspond pas aux besoins. C'est-à-dire qu'il y a des logements qui sont produits, déjà en nombre insuffisant, pas forcément à proximité des lieux de travail, Et en plus, le prix de sortie des logements ne correspond pas au prix que peuvent payer la grande majorité des citoyens de ce pays, que ce soit dans le locatif ou l'accession. Ou alors, s'ils peuvent le payer, ça veut dire qu'ils ont d'autres dépenses, comme pour se loger, pour l'éducation des enfants, pour la nourriture, sur lesquelles, eh bien, ils sont obligés de se restreindre. Et par ailleurs, cette masse d'argent consommée, entre guillemets, pour se loger, elle n'est pas utilisée dans les autres secteurs économiques du pays. Donc c'est vraiment un problème global qui embolise à la fois toute la sphère sociale du pays avec, encore une fois, quantité de familles pour lesquelles se loger est trop difficile et trop cher, et ça pose des problèmes économiques à l'ensemble du pays. C'est pour ça que on ne peut pas ni aller vers une financiarisation totale du logement, ce qui est un peu la pente que veut suivre Emmanuel Macron et qu'il a suivi depuis le début du quinquennat, ni rester là sans rien faire en pensant qu'un jour ça se réglerait par soi-même. Il faut aller vers la régulation.
Alors c'est vrai que on a un petit peu de mal à comprendre la stratégie du gouvernement. Parce que finalement, on a le sentiment que il n'y a pas vraiment de cohérence dans les décisions qui ont été prises, et que on renvoie aussi souvent aux acteurs locaux la responsabilité de réguler les prix avec la possibilité ou pas de bloquer les loyers. Et puis aussi, la production de logements repose aujourd'hui principalement sur la bonne volonté des élus, et en particulier les maires. Et on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, les objectifs de production annuelle ne sont quasiment jamais atteints.
Alors, justement, déjà, la première chose, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est bien de lancer des grands objectifs. On va construire 500 000. J'ai vu qu'il y a un candidat... Je crois que c'est Yannick Jadot, pour ne pas le nommer, propose de construire 700 000 logements. Bon, mais tous ces objectifs peuvent être sympathiques, mais si on ne dit pas comment on y arrive et si on ne met pas une obligation de moyens, ils ont très peu de chances d'être réalisés. Par rapport à ce que vous venez de dire, responsabiliser les élus locaux, moi je suis pour. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la même politique du logement quand on est en Ile-de-France ou quand on est, en tout cas dans les zones urbaines de l'Ile-de-France, ou quand on est dans la Creuse. Et pour parler de zones dites tendues, y compris, on ne va pas faire la même politique du logement à Paris, à Bordeaux, à Rennes et à Toulouse. Donc il faut qu'il y ait des politiques différenciées. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est la place de chaque acteur. Pour le dire autrement, chaque acteur public, chaque décideur. Pour le dire autrement, quand il s'agit d'inaugurer un immeuble neuf, tout le monde est là pour couper le ruban de l'État aux collectivités, etc., etc. Quand il s'agit de répondre à la crise du logement, à ce que j'ai décrit tout à l'heure sur le logement qui est trop rare et trop cher aujourd'hui, plus personne n'est responsable. L'État dit que c'est les collectivités disent que c'est l'État, les constructeurs disent que c'est les deux, les Français se plaignent, et pour certains, disons-le aussi, ils refusent de voir des populations moins fortunées qu'eux arriver dans leur quartier, parce que ça joue aussi un petit peu. Et donc, il faut, et c'est sans doute ce qu'il faut commencer à faire, de notre avis, et c'est ce qu'a énoncé hier Christiane Taubira lors de son intervention dans le rassemblement de la Fondation Abbé Pierre. Il y a des questions de régulation, sans doute on viendra, des questions de sécuriser l'accès au logement, j'espère qu'on en reviendra aussi, mais sur ce jeu-là des acteurs publics, il faut qu'on sache très précisément ce que fait l'État, ce que font les départements et les régions si elles aident ou pas à la production de logements, et quelles sont surtout les responsabilités précises des élus locaux, des maires. Et aujourd'hui, ça n'est pas très clair. Donc nous défendons le fait que l'État émette, et c'est son rôle d'État régulateur, des grands objectifs nationaux, mais de laisser la possibilité aux élus locaux de mettre en œuvre ces objectifs nationaux comme ils le souhaitent eux. Et pour ça, les élus locaux ont un outil, ça s'appelle le programme local de l'habitat. C'est un document qui engage la ville sur plusieurs années, et dans lequel le nombre de nouveaux logements à construire, ce que l'on va construire, où on va le construire, le respect des normes environnementales, par exemple aussi, en termes d'artificialisation des sols, par exemple. Tout cela, ça doit figurer dans le programme de l'habitat. Donc la première chose, il faut que dans ce programme local de l'habitat, il soit discuté avec les citoyens, avec les habitants de la ville, ceux qui sont déjà là, et voir dans quelles conditions cette ville peut accueillir des habitants supplémentaires, parce que c'est quand même ça le sujet, voir les propres enfants des personnes qui habitent là. Hein. Les enfants qui ont 20, 25, voire 30 ans, bon, ils veulent être indépendants de leurs parents et à 30 ans, à coup sûr. Mais donc, la question, c'est aussi permettre aux enfants des habitants d'une ville, quand ils deviennent adultes, qu'ils ont leur indépendance financière, bah, s'ils le souhaitent, bien sûr, de pouvoir habiter la ville où ils ont grandi et pas trop loin de leurs parents. Mais donc, pour ça, il faut que ça soit discuté dans le programme local de l'habitat. Et une fois que ce document a été discuté et adopté localement par les conseils municipaux ou les communautés d'agglomération dans le cadre des intercommunalités, eh bien, il faut, après que, bien sûr, l'État le vit, mais que ça devienne un document engageant pour les collectivités. Et je m'explique, aujourd'hui, ces programmes locaux de l'habitat, ils sont très déclaratifs. C'est-à-dire, la ville va dire, je vais construire tant de logements et puis dans tel quartier, mais finalement, personne ne regarde si ces objectifs sont tenus. Et nous souhaitons, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire confiance aux collectivités territoriales, parce qu'une politique du logement, elle doit être différenciée sur le territoire, mais en tenant une main un peu ferme et, de la part de l'État, et avec donc un système qui pourrait être un système de bonus-malus par rapport aux dotations financières que reçoivent les collectivités. Si les collectivités ne répondent pas positivement aux propres objectifs qu'elles se sont fixés en termes de construction, hormis pandémie par exemple et les chantiers bloqués parce qu'il y avait le confinement, c'est-à-dire dans la marche normale des choses, si les collectivités ont déclaré qu'elles allaient construire des logements pour répondre aux besoins et avec des logements accessibles socialement au plus grand nombre en termes de prix, et que finalement elles ne le font pas, eh bien ça jouera sur les dotations, négativement sur les dotations qu'elles recevront de l'État. A contrario, pour les maires qui respectent leurs engagements et qui vont même plus vite que ce qui s'était assigné, vu la crise du logement que l'on a aujourd'hui avec plus de 2,2 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social, c'est quand même ça la réalité, pas 2,2 millions de personnes, 2,2 millions de familles qui sont en attente de logement social. Et derrière, ça veut dire toutes celles et tous ceux qui voudraient aussi se loger en dehors du logement social. Eh bien, par rapport à ça, les maires qui prendront cette situation de manière la plus vertueuse possible en construisant suivant les besoins, eh bien, ils pourront avoir un système de bonus sur les dotations qu'ils recevront, notamment pour construire les équipements qui vont avec les logements. Parce qu'accueillir plus d'habitants, bah, on a besoin d'une école, on a besoin d'une crèche, on a besoin de clubs d'infrastructures sportives, de routes, etc.
Alors,
et donc, c'est aussi, je termine juste là, un avantage supplémentaire pour les habitants qui sont déjà là dans le quartier. Parce que c'est peut-être parce qu'on construira un ou deux petits immeubles de 4 étages, donc avec 8 ou 10 familles à l'intérieur, que l'école du quartier qui n'avait pas d'intérêt, ben on trouvera un supplémentaire, parce qu'il y aura des enfants qui seront là, ou la ligne de bus qui passera devant les habitants de ce quartier-là qui en était dépourvu, parce qu'il y aura des habitants supplémentaires.
Alors, on va se faire un peu l'avocat du diable. Ce que vous proposez, c'est de rétablir le lien entre le financement des équipements dans une commune et l'arrivée de nouveaux habitants. Ça s'appelait la taxe d'habitation. Sauf qu'elle a été supprimée.
En tout cas.
Et que du coup, les collectivités deviennent plus frileuses parce qu'elles savent très bien que les dotations seront probablement mal compensées dans la durée et qu'il y aura des pertes de recettes qui amène ensuite à faire des choix plus restrictifs en matière d'investissement. Et puis, il y a également un problème auquel sont confrontées les collectivités, c'est l'inflation du prix des fonciers. En particulier en zone tendue, il y a une rareté des fonciers qui fait monter les prix de manière exorbitante et du coup, l'équilibre économique des opérations pousse les opérateurs à faire du logement qui n'est pas abordable et qui ne correspond pas aux besoins de 80% des habitants. Comment est-ce qu'on fait aussi pour répondre à ces sujets-là?
Alors, vous avez raison, je réponds sur les deux points. Le premier point, je partage ce que vous avez dit. Comme contribuable et comme tout le monde, j'étais content qu'on aille vers la suppression de la taxe d'habitation. Mais d'un autre côté, il faudrait quand même se demander qui a payé la suppression. Parce qu'il y avait déjà 25% avant la suppression d'Emmanuel Macron, il y avait déjà 25% de Français qui soit ne payaient pas la taxe d'habitation, soit étaient dégrévés largement, du fait de leur situation sociale. Donc ces 25%-là, ils n'en ont pas profité. Et par contre, dans le coût de la mesure, de 18 milliards environ, il y a 10 milliards qui, chaque année, qui sont pour rembourser aux collectivités la taxe d'habitation des plus fortunés, les plus aisés de ce pays en tout cas. Parce que bien sûr, plus on a une demeure grande et plus on est dans un quartier aisé, bah, plus la taxe d'habitation
était élevée.
Et qui a payé ces 10 milliards d'euros pour les plus aisés et le coût global des 18 milliards d'euros pour les plus aisés, bah, c'est tous les Français par leurs impôts, puisque ça a été remboursé par l'État aux communes. Donc ça veut dire en fait que les gens des classes moyennes, moi je suis de Seine-Saint-Denis, les gens des classes moyennes de Seine-Saint-Denis qui étaient contents de ne plus payer la taxe d'habitation, finalement par leurs impôts, la TVA, l'impôt sur le revenu, la taxe sur l'essence, ils ont aidé à rembourser le non-paiement de la taxe d'habitation de des gens, des familles les plus aisées, par exemple de villes type Puteaux ou
le Valois,
Neuilly-sur-Seine ou le Valois. Et donc ça, c'est la réalité du financement de la taxe d'habitation. Et quand vous disiez l'avocat du diable, vous étiez plutôt le procureur général d'Emmanuel Macron, si je peux me permettre tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est évidemment pour le maire qui n'a plus cette ressource-là, donc qui n'a plus de ressources supplémentaires parce qu'il y aura des nouveaux habitants dans sa commune, ça a délié le lien. Sur le foncier, non mais je partage votre constat. Aujourd'hui, dans les prix de construction, c'est le prix du terrain qui renchérit de beaucoup le prix du logement une fois qu'il est sorti de terre. J'avais personnellement fait un rapport en 2016, si je me souviens bien, sur le sujet, sur la mobilisation du foncier sur le logement. Alors, le foncier, si on parle que des zones tendues, c'est-à-dire les villes, les villes et les métropoles partout en France, c'est souvent ce qu'on appelle un foncier d'occasion, c'est-à-dire c'est pas un espace vert, quoi. C'est un foncier sur lequel des choses ont déjà été construites, soit des bâtiments, soit, par exemple, des anciens entrepôts. Et donc, ce foncier disponible, qui est un foncier d'occasion, c'est-à-dire là où il y a eu des choses, mais il n'y a plus rien, l'immeuble, il n'y a plus personne dedans, parce que c'est, par exemple, un immeuble qui est complètement décati, c'est un entrepôt, un vieux garage, ou une activité économique qui n'existe plus, et on est dans un système de friche. Donc la question, c'est, exemple en Ile-de-France, on va voir les gares du Grand Paris avec le réseau. Comment fait-on pour qu'autour de ces quartiers, de ces gares et dans les quartiers de gare, on n'ait pas un phénomène d'exclusion, tout simplement parce que il y aura la gare, donc le prix des terrains à côté de la gare va mécaniquement monter. Et donc, la proposition, et j'ai bien peur que le coût de ce côté-là soit déjà parti. Ça va être le coût COT, mais aussi le coût COIT, in fine, ça va coûter plus cher. Mais, d'une manière générale, nous pensons qu'il faut avoir une maîtrise publique, une régulation des prix du foncier, de deux manières différentes. La première, c'est de mettre en œuvre une foncière publique, c'est-à-dire un outil, un organisme public, très régionalisés qui permettent justement...
Qui s'appelle l'EPFIF.
Alors, non, ça c'est l'établissement public foncier.
Oui, c'est régional.
Différent. L'établissement public foncier régional qui existe depuis que Jean-Paul Huchon était à la tête de la région Île-de-France, quand l'EPFIF a été créé, j'étais conseiller régional à l'époque, mais cet établissement-là, il récupère des terrains dans le cadre de discussions avec les collectivités. Là, ça serait un peu différent. Et puis, il y a une deuxième idée, c'est pas tellement sur le foncier, mais c'est un phénomène qui revient aujourd'hui dans les grandes métropoles. Par exemple, la métropole de Lyon, Renaud Père, le vice-président de la métropole de Lyon, chargé de l'habitat, est aussi un soutien engagé avec moi autour de Christiane Taubira, c'est ce qu'on appelle les ventes à la découpe. Alors là, c'est pas complètement le foncier, mais vous avez aujourd'hui des gens qui habitent un immeuble, qui sont locataires d'un immeuble, tout se passe bien, voilà, et puis le propriétaire vend à un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement décide de revendre les appartements par lot, c'est-à-dire appartement par appartement. Et les locataires se retrouvent parfois à la rue parce qu'ils n'ont soit pas eux-mêmes la possibilité d'acheter, d'autant plus que celui qui vient de racheter l'immeuble met des prix de vente beaucoup plus élevés que qu'ils payaient en équivalent en salaire, en loyer, pardon. Par ailleurs, on leur propose même pas forcément de payer, puis peut-être qu'ils ne veulent pas devenir propriétaires. Et ça, c'est un phénomène qui revient. Et donc, ce qu'on a comme idée là-dessus, c'est d'imposer ce qu'on appelle en langage technique une servitude de mixité sociale, qui existe parfois au niveau vertical sur les terrains, mais là, on voudrait horizontal, pardon, sur les terrains, mais là, on voudrait la faire verticale. Pour être concret, la personne qui rachètera un immeuble entier et qui voudra le vendre à la découpe en chassant les locataires, on l'obligera à avoir un pourcentage de logements socialement accessible au moment de cette revente. De la même manière que la loi SRU prévoit 25% de logements locatifs sociaux dans chacune des communes dans les zones tendues, eh bien là, c'est de dire qu'il faut, si on est dans ce système-là d'achat et de revente, on ne peut pas bloquer l'achat, on est dans un pays de liberté, mais en tout cas, au moment de la revente, il faudra qu'il y ait un pourcentage qu'on a évalué à 30% de logements qui soient sous plafond de ressources et donc sous plafond de loyer pour ne pas sortir des habitants du logement qu'ils habitent tranquillement. Voilà la réflexion que l'on a poussée et que Christiane Taubira, est, sur laquelle elle est aussi intervenue hier quand on lui a posé la question.
Merci beaucoup Daniel Goldberg. Donc je rappelle que vous êtes responsable associatif, vous êtes aussi ancien parlementaire et porte-parole de Christiane Taubira, chargée de la mobilisation citoyenne. Merci beaucoup, c'était la fin de l'émission et si on en parlait sur Radio Orient, à la semaine prochaine.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.